Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
Bonjour Francis.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très bien. T'avais peur d'avoir froid?
J'ai une belle collection de chapeaux, Mario. Ah. J'espère que certains auditeurs nous regardent en ce moment.
Ouais, parce que ben, pour les gens qui se demandent de quoi je parle, qui sont juste en balado audio, on a une balado vidéo, une version vidéo. Et Francis a un chapeau que je qualifierais, ma foi, d'original. Pour nous parler du chômage qui atteint ben des niveaux records par le bas.
Oui, effectivement, ce qui est quand même surprenant, Mario, tu sais, on a toutes ces craintes de récession, on a l'impression que l'augmentation du taux directeur va ralentir l'activité économique. On parle beaucoup de ça ces temps-ci. Et pourtant, en novembre, le Québec a créé un nombre d'emplois extraordinaire dans les circonstances, ce qui fait qu'on passe à un creux là, de chômage absolument presque absurde là, de 3,8%. C'est surtout dans la région de Montréal où on a créé le plus d'emplois. Et donc, le taux de chômage a diminué à Montréal à 4,2%, et donc dans d'autres régions, c'est encore plus bas. Donc, c'est vraiment étonnant, puis ça fait aussi en sorte que forcément, ça va mettre une pression à la hausse sur les salaires.
Mais on s'entend qu'en bas de 4%, ça veut dire presque pour un employeur, tu trouves plus de monde, là.
Non, c'est ça. Puis effectivement, pour un emploi, tu trouves plus de monde, mais surtout, Mario, ça veut dire que si tu veux recruter quelqu'un, grosso modo,
faut que tu le voles à quelqu'un d'autre.
Puis donc, ça, c'est ce que j'explique, ça crée forcément de la surenchère, tu sais, dans les conditions de travail ou dans la rémunération, ce qui est tout à fait à l'avantage des salariés. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on arrive un peu à un point de rupture, c'est que, tu sais, comme justement, à chaque fois que tu voles un employé à quelqu'un, ben, tu sais, tu brises un processus, tu enlèves une création de valeur à cet endroit-là. Tant mieux pour l'employé, mais c'est très déstabilisant puis très stressant là, au point de vue théorique. Pour l'économie dans son ensemble, ça va éventuellement limiter la production, puis éventuellement, ça va avoir raison de la croissance du PIB juste parce qu'il n'y a plus assez de travailleurs. Puis c'est très étonnant, comme je disais, dans les circonstances macroéconomiques qu'on connaît actuellement, de voir que au Canada, puis juste, soit dit en passant, petite parenthèse, là, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis également aujourd'hui, Mario. C'est aussi pas mal dans la même direction. C'est pas autant de création d'emplois que dans les mois qui précèdent, mais on parle de plus de 200 000 emplois qui se sont créés au mois de novembre. C'est quand même aussi étonnant. Donc, le marché de l'emploi, clairement résiste à toute forme d'intervention là, venant d'en haut. C'est encore une fois une excellente nouvelle pour les travailleurs là, en début 2023 comme ça. Là.
On s'était parlé il y a quelques semaines de l'action de Good Food là, qui était passée du début de l'année à 4 $ jusqu'à 20 quelques sous au début du mois de novembre. Est-ce qu'elle a connu un petit rebond?
Oui, ben c'est étonnant, Mario, parce qu'évidemment, les résultats de Good Food qui ont été dévoilés là, ces derniers jours montrent une diminution importante du nombre d'abonnés. Là, donc, selon plusieurs analystes, là, ça aurait été idéalement autour de 190 000. On parle aujourd'hui chez Good Food de 157 000 abonnés. Il y a un an, ils en avaient 250 000. Là, donc, on n'est pas à moitié du nombre d'abonnés.
OK, mais ils ont perdu tant.
Je pensais
que leur croissance avait ralenti. C'est comme on dit souvent, la croissance ralentit. Les autres, ils ont vraiment perdu du monde, là.
Ah oui, ben en fait les ventes là, tu sais, le nombre d'abonnés grosso modo Good Food, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est généralement un système d'abonnement où à toutes les semaines on reçoit donc des produits alimentaires qu'on cuisine ou qu'on consomme tel quel. Donc le nombre d'abonnés est passé de 249 à 157 et de manière un peu arithmétique, les ventes ont baissé de 37%, là, ce qui est à peu près le même ratio. Ça reste que c'est 50 millions par trimestre, donc grosso modo 200 millions par année, ce qui est quand même, tu sais, une belle performance en termes de revenus. Et puis Good Food, évidemment, s'ajuste en augmentant et en travaillant sur les marges. Donc, c'est évidemment, ils font moins d'argent en haut, mais si tu es capable de faire donc, des meilleures marges par dollar vendu, ben, tu peux générer une profitabilité. Ceci dit, dans le dernier trimestre, on se rappellera qu'ils ont abandonné leur service de livraison là, rapide là, en un jour, là, style un peu épicerie. Ça les a obligés à engendrer plein de coûts majeurs. Donc là, ils ont fait une perte de 58 millions de dollars sur le trimestre, sur des ventes de 50 millions. Donc, tu sais, c'est paradoxalement une entreprise qui, selon toute métrique, ne va pas très bien. Pourtant, les résultats étaient meilleurs que ce qui était attendu par le marché. Et donc, aujourd'hui, on a vu le prix de l'action bondir de 40%, ce qui est quand même, si vous aviez du good food dans votre portefeuille, c'est une bonne journée pour cette action-là. Et ça semble, depuis ce midi, là, se maintenir pas mal à cette nouvelle valorisation-là, qui est autour d'une cinquantaine de cents par action.
Francis, toujours la même question, le prix du pétrole en lien avec la Russie puis avec les le pétrole russe ou le boycott du pétrole russe. Parle-nous de cette nouvelle action de l'Union européenne.
Mais ça fait de nombreux mois qu'on en parle un peu dans les coulisses, puis j'avais pas trop fait de nouvelles là-dessus parce que ça restait un peu spéculatif, Mario. Il y avait cette volonté de mettre, dans le fond, un prix plafond sur le prix russe, c'est-à-dire qu'on imposerait à tous les importateurs, transformateurs, distributeurs de payer un maximum d'un certain montant. La Pologne avait évoqué 30$ le baril. L'Union européenne, dans son ensemble, était plutôt autour de 65 à 70$ le baril. Et finalement, ce qu'on a convenu au G7 dans un premier temps, puis maintenant c'est aujourd'hui l'Union européenne qui a endossé ce prix-là, c'est 60$ par baril. Ce qui est quand même, par rapport au prix de marché, là, mettons du Brent là, ou d'autres produits.
C'est quoi, 78, 80 dans ces eaux-là?
Ah non, 87, là, okay. 88. Donc on est là un bon 30% en dessous du prix de marché. Par contre, le pétrole russe, Mario, est comme facile à exploiter, là, entre gros guillemets. C'est-à-dire que le coût par baril d'exploitation, mettons par rapport au pétrole canadien, là, est beaucoup plus faible. Tu sais, tu fais un trou dans le sol, il y a du pétrole qui sort, là, pour faire une caricature, là. Et donc, ça coûte, selon la plupart des experts, autour de 30$ par baril à rendre disponible. Donc, à 60$, il y a encore une marge de profit. Mais évidemment, la Russie va proclamer haut et fort que c'est injuste et tout, qu'elle devrait pouvoir vendre au prix juste de marché, mais dans les circonstances, avec la guerre en Ukraine, etc., ils n'ont pas un gros pouvoir de négociation. Ce que certains pensent, par contre,
c'est une sorte de demi-sanction économique sans se priver des volumes de pétrole de la Russie.
Ben c'est ça, sauf que là, la Russie, évidemment, à ce prix-là, pourrait décider de limiter la quantité de pétrole qu'elle exporte, ce qui pourrait avoir un impact sur comme le pétrole non russe, là, si tu veux que je l'exprime comme ça. Et donc, certains craignent que ça pourrait faire augmenter significativement le prix du pétrole, entre guillemets, sur le libre marché. Et donc, on pourrait retrouver des prix de 100, 110, 120$ le baril, comme ça a été le cas là, plutôt cette année. Et puis, évidemment, ça a l'impact qu'on connaît là, sur les prix à la pompe, sur les prix pour les entreprises. Donc, encore une fois, c'est comme un pari un peu risqué. La Russie est un gros joueur dans le domaine du pétrole. Là, on les picosse de vraiment là où ça fait très mal. On leur laisse une certaine marge de profit, mais il va falloir voir comment M. Poutine réagit à ce nouveau plafond-là. Puis comme là, tous les acteurs là, des pays de l'OCDE, du G7, semblent être alignés là-dessus, je pense qu'il va pas y avoir de retour en arrière, du moins pas à court terme là, par rapport à ce nouveau prix plafond sur le pétrole russe.
Ton chapeau, est-ce que c'est de la fourrure de, dis pas là, de castor angora?
Je vais faire une petite plug, Mario. C'est de la fourrure recyclée que j'ai achetée chez Aricana, qui est une belle business.
Oui, québécoise. J'ai déjà acheté des cadeaux de Noël à ma blonde chez Aricana.
C'est de la vraie fourrure. C'est moins, à la mode, là, ces jours-ci.
Mais qu'est-ce donc? C'est-tu de l'alpaga? Non, c'est pas de la fourrure, ça.
Écoute, je me suis pas rendu jusqu'à me demander quel genre de fourrure c'était, mais je t'assure que c'est très, très doux, là. Fait que je te l'emmènerai.
On est jaloux. Là, il annonce du grand vent demain, fait qu'assure-toi de l'attacher comme il faut. Hey, salut, bonne fin de semaine.
J'attache. Toi aussi, à lundi.